VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, des dizaines de soldats tués ou portés disparus après une attaque attribuée à des djihadistes. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont déclenché une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail en pleine pandémie de coronavirus. Nous ferons également le point sur la pandémie dans le monde. Ici aux États-Unis, un autre homme noir a été tué par un policier blanc à Atlanta et ravive la colère et les manifestants contre le racisme. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, le bilan provisoire d'une embuscade tendue au Fama est de 40 soldats portés disparus, des blessés graves et des véhicules brûlés. L'attaque s'est passée hier dans la région de Ségou, dans le centre du pays, près de la frontière avec la Mauritanie. Plus de précisions avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Dans la région de Ségou, cercle de Nyono, commune de Djabali, plus précisément dans la localité de Gomakura, hier dans l'après-midi vers 15h, la patrouille des Fama de Gomakura est tombée dans une embuscade totale avec plusieurs véhicules. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de soldats qui ont replié hier soir au camp avec 3 pick-up. Une quarantaine à bord de 8 pick-up sont restés introuvables hier dans la nuit. La recherche par l'armée de l'air qui a continué jusqu'au petit matin est restée infructueuse. Selon nos informations, les assaillants au cours de cette attaque ont fait d'abord exploser une bombe suivie de tuyauteries d'armes lourdes et automatiques. Les soldats ont essayé de se défendre, mais face à la puissance des feux, ils se sont évaporés dans la nature en rang dispersé. Cette attaque, selon des sources locales, s'est passée à la frontière avec la Mauritanie, à côté de la forêt de Mema, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics ont entamé une grève ce lundi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils indiquent toutefois que ceux qui traitent les patients atteints du coronavirus continuent de travailler. Jacques Aristide.
L'Association nationale des médecins résidents, qui représente environ 40% des médecins du Nigeria, précise qu'il s'agit d'une grève générale qui va avoir lieu jusqu'à nouvel ordre, dont sont exemptés uniquement les centres de traitement Covid-19. Pour son président Aliou Sokomba, il ne faut pas priver les patients du Covid-19 de soins, mais il a averti que même les médecins exemptés se joindraient au mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans 2 semaines. S'ils continuent à faire preuve de manque de sincérité, nous n'aurons peut-être pas d'autre choix que de désigner les médecins que nous avons exemptés pour se joindre à la grève, a-t-il ajouté. Le syndicat revendique notamment la fourniture d'équipements de protection et une prime de risque pour ceux qui travaillent sur le virus. D'autres revendications plus générales concernent l'amélioration des conditions de travail et dénoncent les licenciements et réductions de salaire des médecins. Le pays a enregistré plus de 16 000 cas et 420 décès depuis le premier cas connu du coronavirus en février dernier et plus de 800 agents de santé ont été contaminés d'après les autorités.
Le nouveau président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, prêtera serment jeudi. La cérémonie était initialement prévue en août, mais elle a été avancée en raison du décès du président sortant Pierre Nkurunziza. Vendredi, la Cour constitutionnelle a estimé que le nouveau président, issu des rangs du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, devait entrer en fonction le plus rapidement possible, sans période d'intérim. En République démocratique du Congo, 6 civils ont été tués hier dimanche et des maisons incendiées lors d'une nouvelle attaque attribuée aux membres présumés du groupe armé des forces démocratiques alliées à Beni dans l'est du pays. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a condamné comme des actes inhumains les féminicides qui, selon la police, ont grimpé depuis l'assouplissement du confinement. L'Afrique du Sud est l'un des pays qui a l'un des taux de violence domestique les plus élevés au monde. C'est également le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent. Le chef de milice soudanais, Ali Kocheb, a nié aujourd'hui, lors de sa première comparution devant la Cour pénale internationale, avoir commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Ali Kocheb, chef des milices Janjaweed, recherché depuis 2007 et détenu par la CPI depuis le 9 mai, après s'être rendu volontairement aux autorités centrafricaines. En Algérie, une centaine de chauffeurs de taxi ont manifesté à Alger pour dénoncer les conditions jugées drastiques de la reprise de leurs activités annoncées par le gouvernement dans le cadre d'une nouvelle phase de déconfinement. Le gouvernement a autorisé hier la reprise de la circulation des transports urbains, taxis, bus et tramways, mais avec des conditions très strictes. Un seul client n'est autorisé et une vitre en plexiglas doit avoir été installée entre le chauffeur et le passager.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 433 000 morts dans le monde, avec près de 8 millions de cas. Après 3 mois d'isolement, les Européens ont retrouvé lundi la possibilité de voyager plus facilement d'un pays à l'autre. Les derniers développements avec Eric Manirakiza.
L'Italie, la Croatie et la Pologne ont déjà ouvert leurs frontières sans restriction la semaine dernière. Lundi, l'Allemagne, la France, la Belgique et la Grèce ont à leur tour rétabli la libre circulation avec tous les pays du continent. À Paris, les touristes peuvent de nouveau visiter la Tour Eiffel à condition de monter par les escaliers. Les premiers touristes allemands autorisés à profiter du soleil de l'archipel des Baleares en Espagne sont arrivés lundi dans le cadre d'un projet pilote. Au Royaume-Uni, tous les commerces sont autorisés à rouvrir dans une nouvelle étape du déconfinement. Les États-Unis, qui avaient répertorié 382 morts supplémentaires dimanche, continuent d'enregistrer quelques 20 000 nouveaux cas par jour. La Chine a connu ce week-end une résurgence du nombre de cas dans le sud de Pékin. L'Iran a averti qu'il pourrait réimposer des mesures strictes, annonçant plus de 100 décès pour la deuxième journée consécutive. En Inde, selon les médecins, de nombreux malades décèdent après avoir été refusés par les hôpitaux, faute de lits. Au Pakistan, le gouvernement a prévenu que le nombre de cas pourrait doubler d'ici fin juin et dépasser le million fin juillet.
L'Arabie Saoudite a dépassé aujourd'hui la barre des 1000 décès, a annoncé le ministère de la Santé, sur fond de hausse des contaminations à quelques semaines du début du Hajj, le grand pèlerinage musulman à la Mecque. La pandémie de coronavirus pèse aussi sur la campagne électorale aux États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé un grand meeting à Tulsa, dans l'Oklahoma, pour lancer sa campagne de réélection. L'Oklahoma a enregistré samedi plus de 8000 cas de Covid-19, dont 225 au cours des dernières 24 heures. Un nouveau record pour cet État. Alors que les manifestations provoquées par la mort de George Floyd le mois dernier à Minneapolis se poursuivent, un autre homme noir a été tué par la police à Atlanta, provoquant un regain de colère dans plusieurs villes américaines. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce nouvel incident a provoqué la démission de la chef de la police d'Atlanta et le licenciement du policier qui a tiré sur Richard Brooks, âgé de 27 ans et qui s'était endormi au volant de sa voiture. Le procureur devrait se prononcer cette semaine sur une possible inculpation. Le médecin légiste a qualifié dimanche d'homicide la mort de Richard Brooks. La chaîne de restauration rapide Wendy's, près duquel il a été mortellement blessé par balle, a été incendiée. Selon un rapport officiel, des employés de l'établissement ont appelé parce que son véhicule bloquait les clients. L'homme était en état d'ébriété et a résisté lorsque deux policiers blancs ont voulu l'arrêter, affirme le bureau d'enquête de l'État de Géorgie. Les images de l'incident montrent une lutte entre les agents et le suspect, prenant la fuite après avoir réussi à arracher à l'un des policiers un taser, un appareil qui sert à électrocuter. Par ailleurs, ce lundi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a donné son feu vert à un débat urgent sur le racisme et la violence policière demandé par les pays africains.
La justice russe a condamné aujourd'hui à 16 ans de prison l'américano-britannique Paul Whelan pour espionnage, une condamnation politique selon l'intéressé et qui pourrait ouvrir la voie à un échange de prisonniers entre Moscou et Washington. Les États-Unis se sont dit indignés par ce verdict et ont réclamé une libération immédiate de Paul Whelan. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dénoncé un procès secret avec des preuves gardées secrètes et sans droit approprié pour la défense. L'accusé a été jugé à huis clos. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
Au Sénégal, la Sonatel lance un emprunt obligatoire de 100 milliards de francs CFA du 15 juin au 15 juillet dans le cadre financier régional de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Jamais dans l'histoire un tel montant a été sollicité par un émetteur privé. Les acteurs du marché de l'UMOA, à la recherche de placements sûrs et durables, ont à travers cet emprunt une opportunité unique. Pénurie de petites monnaies dans la plupart des 14 pays qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest et centrale, en attendant l'arrivée de l'éco, future monnaie commune, il est difficile de payer les petites sommes avec un billet de 10 000 francs CFA, voire même un billet de 5 000 francs CFA. La petite monnaie fait même l'objet de trafic ou de marchés noirs dans certaines villes. Selon un cadre de la BCAO, les pièces et les petits billets coûtent cher à produire pour les deux banques centrales qui gèrent la monnaie dans les deux zones CFA. Au Nigeria, la Société nationale de pétrole vient de publier ses résultats financiers et ceux de ses filiales pour le compte de l'année 2018. Une mesure qui entre dans le cadre de la promesse du président Muhammadu Buhari de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La balle au panier va refaire surface au Mali. Après 3 mois d'interruption à cause du coronavirus, les compétitions de basketball vont reprendre d'ici la fin de ce mois de juin. C'est une proposition faite par la Fédération malienne de basketball. Au ministère des Sports, notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous en dit plus.
Le 30 juin 2020, proposé au ministère des Sports pour reprendre les compétitions de basketball au Mali est une date indicative selon le président de la Fédération malienne de basketball. Haruna B. Maïga a indiqué que le plan de reprise comprend plusieurs étapes. Il y a d'abord la réouverture des infrastructures de sport, notamment celle du basket. La sensibilisation des responsables des clubs à respecter les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus, la reprise des entraînements et bien sûr, avec l'approbation du ministère malien de la Santé, c'est après toutes ces étapes que les compétitions proprement dites pourront redémarrer. Mais il faut ajouter aussi que le temps presse parce que le Mali prendra part à 2 compétitions internationales importantes des FIBA Monde. Il s'agit notamment de la Coupe du Monde des U17 en filles et en garçons, respectivement en Bulgarie et en Roumanie, au mois d'août prochain. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En football, la Tanzanie a repris son championnat de première division ce week-end, devenant le premier pays africain à rechausser les crampons après un arrêt dû au Covid-19. Les matchs de cette 29e journée se sont joués avec du public. Simba, en tête du championnat, a fait un match nul contre Ruvu, shooting 1-1. De son côté, Azam, deuxième au classement, a dominé Mbao 2-0. Nyanga, en déplacement, s'est imposé 1-0 devant Mwandawi. Reprise également de la Liga en Espagne ce week-end. Les stars du Real Madrid ont dominé Aiba 3-1 à huis clos pour la 28e journée de Liga. Des buts de Toni Kroos, Sergio Ramos et de Marcelo avant la réduction du score de Petro Bigas ont permis aux Madrilènes de donner la réplique au Barça. Brillant vainqueur de Majorque la veille 4-0. À Bilbao, l'Atlético Madrid a été accroché 1-1, tout comme la Real Sociedad par Osasuna. En clôture de cette 28e journée, toujours en Espagne, Iker Casillas, 39 ans, ancien capitaine de la Roja, a décidé de retirer sa candidature à la présidence de la Fédération espagnole de football. Le champion du monde 2010 a justifié son retrait, je cite, par la situation sociale, économique et sanitaire exceptionnelle dont souffre son pays, qui fait que les élections passent au second plan, dit-il. L'annonce de l'ancien gardien du Real Madrid entre 1999 et 2015 laisse le champ libre à Luis Rubiales pour une réélection lors du scrutin programmé pour le 17 août prochain.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, arrestation hier d'un juge dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant le maire de la capitale. Le juge Narcisse Sawadogo, substitut du procureur général près de la cour d'appel de Ouagadougou, a été interpellé pour avoir sollicité 70 millions de francs CFA pour faire classer un autre dossier de pot de vin concernant le maire de Ouagadougou, Armand Bewende. L'affaire fait la une des médias dans le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Véritablement, c'est une affaire dans une affaire. En février dernier, c'est le journal d'investigation Courrier Confidentiel qui a révélé l'affaire dite acquisition de 77 véhicules par la mairie centrale de Ouagadougou. Selon le journal, le maire de Ouagadougou, Armand Bewende, a des intérêts économiques avec l'entreprise attributaire du marché de véhicules par crédit bail pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA.
Nous avons trouvé quand même cette opération assez suspecte.
Ladji Bama est le rédacteur en chef du journal d'investigation Courrier Confidentiel.
Et c'est ainsi que nous avons mené nos investigations pour comprendre un peu les tenants aboutissants, où nous avons pu découvrir qu'il y avait tellement de collusion entre les acteurs de cette opération, notamment le maire Armand Bewende, qui surtout a sa famille, pratiquement sa femme et ses enfants qui sont actionnaires dans la maison d'assurance qui assure les véhicules en question, laquelle maison d'assurance a des intérêts dans l'institution de crédit bail à qui le marché a été octroyé et tout ça. Donc nous avons conclure à une opération, en tout cas, de pillage, on allait dire, des ressources publiques.
Puis, dans sa dernière parution, le bimensuel, l'événement révèle qu'un réseau de personnes, dont des magistrats, a sollicité auprès du maire de Ouagadougou, Armand Bewende, la somme de 70 millions de francs CFA pour l'aider à étouffer son dossier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Serge Oulon est journaliste à l'événement.
Il y a un peu de l'emballement, effectivement, au niveau de l'opinion publique. La justice en est saisie. Je pense que c'est une bonne chose. La société organisée, chaque composante essaie d'apporter sa contribution. L'événement a essayé de faire sa part. La justice a pris le relais. Il y a deux personnes qui ont été mises en garde à vue. On va suivre, voir ce que ça va donner. Et puis voilà, nous allons encore faire notre travail d'informer les Burkinabés sur ce qui se passe sur cette affaire.
Dans les rues de Ouagadougou, les populations sont convaincues qu'il y a la corruption au sein de l'institution judiciaire.
Quand on regarde, vraiment, il y a corruption au niveau de la justice. Si on voit bien, vraiment, on sait qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas.
On ne peut pas parler que cette justice-là, elle est honnête, elle est corrompue, et elle a encore sous la pression aussi du pouvoir exécutif, peut-être, mais elle est corrompue.
Pour les observateurs et analystes, ce n'est pas la première fois que la justice est épinglée dans des affaires de corruption. Albert Nagreogo est le directeur de publication du site en ligne Libre Info.
En 2014 déjà, le centre d'éthique judiciaire qui était dirigé par Maître Guy Evekam avait dénoncé des cas de corruption au niveau des magistrats. Donc c'est vraiment pas une surprise de voir de telles révélations encore dans le journal.
Dimanche, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Narcisse Sawadogo, une autre personne, Alassane Baganya, un ancien vendeur de voitures de luxe à New York, ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire de tentative d'extorsion de 70 millions de francs CFA au maire de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La consommation de drogue par les enfants est un fléau en expansion au Cameroun, notamment chez les enfants de la rue, les élèves et les étudiants. Des associations, des médecins et des jeunes bénévoles tente, tant bien que mal, de sortir cette tranche d'âge des ravages de la drogue. Reportage à Yaoundé d'Emmanuel Jultap.
Dans les rues de Yaoundé, il est devenu chose courante de rencontrer des enfants consommant de la drogue.
Ils prennent des doses à 50 francs, à 100 francs, qu'ils introduisent dans les plastiques et ils aspirent.
Des sachets et comprimés contenant de la drogue ont été récupérés entre les mains des enfants de la rue qui fréquentent Edimar, un centre éducatif et de coûts fonctionnels depuis 2002, mais sans infrastructure d'hébergement pour ces enfants. Patrick Bidong Tiadé est éducateur au centre.
Les manquements à l'éducation qui peuvent venir soit de la famille, soit de la communauté, et soit même du manque d'instruction scolaire, on fait au mieux pour les compenser. Maintenant, il y a d'autres valeurs qu'on essaie d'inculquer, des valeurs d'honnêteté, de travail. Nous mettons un ensemble d'outils éducatifs pour que l'enfant de la rue parvienne à cela.
Marc Essama a été enfant de la rue pendant 13 ans. Il s'attelle désormais à libérer d'autres enfants de l'emprise d'une drogue néfaste, appelée ici le caillou.
C'est vrai, les jeunes consommaient la marijuana, mais il n'y avait pas assez de violence quand ils ont commencé à consommer le caillou. Le caillou fait en sorte qu'ils deviennent fous, enragés. Et on ne parvient pas encore à connaître la puissance de cette drogue.
Ici, aux alentours de la gare ferroviaire, le prix de cette drogue oscille entre 4 et 8 dollars et se consomme à l'aide d'une pipe artificielle. Et
ça, c'est par exemple un instrument qui les aide à consommer ce qu'ils appellent le caillou.
Écoutons à nouveau l'éducateur Patrick Bidong Tiadé.
C'est d'abord les déchets de cocaïne et ça fait même des ravages sur le plan économique parce que une petite dose se vend à prix d'or pour des enfants qui sont dans la rue et qui sont obligés de faire des petits travaux pour pouvoir s'en procurer.
À l'autre bout de la ville, au quartier Olembe, un jeune étudiant sous le contrôle de son médecin achève une cure de désintoxication qui inclut ce jour la pratique de l'activité sportive. Harel Baté se sent déjà différent.
Nous avons 2 semaines de traitement. Actuellement, nous allons vers la 3e semaine dans laquelle tout se passe bien. Jusqu'à présent, je me sens plus libéré.
Un spécialiste en santé mentale, le docteur Abel Betiamaziz, prend en charge avec succès des jeunes patients depuis 4 ans. Il nous a fait part de son expérience.
Les étudiants ici et les élèves sont ceux sur qui nous comptons les resocialiser et les ramener à l'école parce que beaucoup ont décroché. Parce qu'avec eux, on peut les réinsérer facilement, ils peuvent reprendre le chemin de l'école.
Selon le Comité national de lutte contre la drogue, plus de 12 000 enfants âgés de moins de 15 ans au Cameroun s'abandonnent à des stupéfiants et produits psychotropes. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'Afrique du Sud tente de relancer le secteur minier, très importante partie de l'économie du pays. Le secteur minier représente environ 8% du PIB et emploie 500 000 de personnes. Après avoir été presque à l'arrêt pendant plusieurs semaines, les mines reprennent progressivement leurs activités. Reportage de notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon.
Devant la station où s'arrêtent les taxis collectifs, un groupe d'hommes discute. Certains ont tenu de travail. La petite ville de Wedela est située à proximité de la mine d'or de Mponeng, la plus profonde au monde. Ici, fin mai, environ 200 mineurs tout juste revenus au travail après le confinement ont été testés positifs au Covid-19. La mine a fermé à nouveau pendant une semaine, mais ces derniers jours, ceux qui travaillent à Mponeng ont reçu des SMS leur demandant de se représenter sur le site.
Je retourne sous-sol. On est en sécurité maintenant. Ils ont désinfecté toute la mine.
Ah, cette mine, elle met nos vies en danger. Nous sommes censés aller travailler, mais ils ne nous testent pas. Seulement un examen et au travail. Moi, je n'irai pas.
Le processus, similaire sur toutes les mines du pays, consiste en un examen médical et une série de questions. Mais seules les personnes déclarant avoir été en contact avec quelqu'un porteur du Covid-19 ou présentant des symptômes sont testées. Des précautions que les syndicats estiment insuffisantes. Joseph Matunja, président national de AMCU, le syndicat majoritaire Amponeng.
S'ils ne vont pas travailler, ils vont mourir de faim. Mais s'ils vont travailler avec un employeur qui n'est pas bien préparé, ça met la vie des travailleurs en danger. Un examen, ce n'est pas suffisant. Parce qu'une personne qui n'a pas de symptômes peut passer à travers. Et nous voyons l'escalade du nombre de travailleurs testés positifs.
Les compagnies minières estiment néanmoins que tester tous les travailleurs ne serait pas efficace ou trop coûteux si les tests devaient être répétés régulièrement. Elles insistent sur le fait que des équipements de protection ont été fournis aux mineurs. Pour l'instant, la plupart des puits n'ont pas encore repris leur pleine activité. Et un autre défi va bientôt se poser. Les employés qui reviendront des pays voisins, notamment le Mozambique et le Lesotho, nombreux dans les mines sud-africaines. Stuart Bailey, vice-président des affaires générales pour AngloGold Ashanti, la société qui gère la mine de Mponeng.
Pour l'instant, nous avons limité le contingent de travailleurs qui reviennent à ceux qui sont déjà en Afrique du Sud. Après ce processus initial de reprise, des gens reviendront des pays voisins. Ils seront transportés depuis ces pays jusqu'en Afrique du Sud, où ils devront faire une quarantaine de 2 semaines.
Le Conseil des minéraux d'Afrique du Sud prévoit une baisse d'environ 10% de la production minière sur l'année 2020. Patricia Huon, de retour de Ouédéla pour VOA Afrique.
Fusillade impliquant la police d'Atlanta en Géorgie est encore venue attiser les manifestations contre le racisme et la brutalité policière. Les appels se multiplient pour une législation bipartisane sur une réforme de la police à l'échelle nationale. Kane Farabo, correspondant VOA, fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Vendredi soir, les policiers d'Atlanta se sont approchés de Rashad Brooks, 27 ans, qui semblait endormi au volant de sa voiture en faisant la queue devant un établissement de restauration rapide. Lorsque les policiers ont essayé d'arrêter Brooks, il a résisté, ce qui a provoqué une bagarre. La scène est filmée par les caméras portées par la police, les vidéos de surveillance du restaurant et les téléphones portables des témoins. Brooks prend la fuite en emportant un taser, un appareil à électrocuter qu'il a arraché à l'un des policiers. L'incident se termine avec un des agents qui ouvre le feu sur Brooks, entraînant sa mort. Keisha Lance Bottoms, maire d'Atlanta.
Bien qu'il puisse y avoir un débat quant à savoir s'il s'agit d'une utilisation appropriée de la force meurtrière, je suis fermement convaincue qu'il existe une distinction claire entre ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Je ne pense pas que ce soit une utilisation justifiée de la force meurtrière et j'ai demandé la révocation immédiate de l'agent.
Dès le lendemain, les policiers ayant appuyé sur la gâchette a été licencié. La chef de la police d'Atlanta a donné sa démission. La colère contre la mort de Brooks a provoqué des troubles dans les rues d'Atlanta, dans un pays déjà secoué par les manifestations contre le racisme et la police. Des manifestants ont mis le feu à l'établissement de restauration rapide où l'incident s'est produit. Stacey Abrams, ancienne représentante de l'État de Géorgie.
Nous avons besoin de réformer la façon dont les policiers font leur travail, comment les forces de l'ordre font leur travail. Parce que ce qui est arrivé à Richard Brooks est dû à l'usage excessif de la force. Le fait qu'ils aient été gênés ou ont paniqué les a conduits à assassiner un homme sachant qu'il n'avait qu'un taser à la main.
Ici à Washington, les législateurs sont divisés, mais de plus en plus sous pression pour résoudre la question de la réforme de la police à la suite du récent décès de George Floyd sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Le sénateur républicain James Lankford de Oklahoma est pour l'interdiction de l'usage par la police de la technique dite d'étranglement.
Il existe depuis longtemps un principe selon lequel ce n'est pas nécessaire dans une telle situation. Il y a eu un document de consensus élaboré en 2017 par les forces de l'ordre à travers le pays pour dire que ce n'est pas nécessaire et je ne pense pas que ce soit un problème pour nous.
Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et ancien candidat républicain à la présidence en 2016, souligne les succès de la réforme de la police dans la ville de Camden, comme un exemple à suivre.
Nous avons sorti les policiers de leur voiture pour les déployer à bicyclette, à pied, et nous les avons intégrés dans la communauté, tant du point de vue de l'application des lois que sur le plan social. Georges travaille avec les communautés, avec les jeunes hommes et femmes pour instaurer la confiance. La deuxième a été la formation à la désescalade, dont le premier mot d'ordre est d'abord de ne pas nuire et que la violence soit un dernier recours.
Alors que les parlementaires à Washington essaient à trouver un terrain d'entente, certains États ont déjà adopté des réformes radicales de leur police en réponse aux manifestations qui ont secoué la plupart de villes américaines ces dernières semaines.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.